coulant du cœur de Dieu. Et c'est auprès du cœur du Seigneur que nous voulons encore ce soir trouver la source pour chacun de nous, cette parole dont nous avons besoin, cette eau qui vient épancher notre soif de connaissance de Dieu lui-même. Amen. Je vous invite à lire un texte dans le livre de Osée, prophète Osée, chapitre 14, à partir du verset 2 au verset 10. Et il y a une invitation. Il y a une invitation bien claire, bien concise, bien écrite, bien fondée. C'est l'invitation de Dieu qui nous invite à revenir à lui. Osée, chapitre 14, verset 2 au verset 10. Il dit « Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Car auprès de toi, l'orphelin trouve de la compassion. Je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, il s'enracinera comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et la senteur du Liban. Ils reviendront, ceux qui s'essayent à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le suivrai des yeux. Je serai comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que vient ton fruit. Que celui qui est sage ait l'intelligence de ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les criminels y trébucheront. Amen. En lisant ce texte ce matin, je repensais à une rencontre que j'ai faite il y a quelques années de cela, avec une personne qui avait grandi, vécu, et était née dans un palais. C'était un prince. Et cet homme avait grandi dans un palais, il avait bénéficié de ceux qui sont les traitements d'un prince. Vous imaginez bien le cadre où il n'y a pas de problème, tout va bien. Et cet homme avait vécu toute sa jeunesse comme ça et il avait été forgé, formé à vivre de cette manière-là où pour lui tout était devenu comme un dû. Puisqu'il était prince, dès qu'on le voyait le matin, « Bonjour, mon prince. Que voulez-vous, mon prince? Qu'espérez-vous, mon prince ?» Le nom n'existait pas, jusqu'au jour où il a perdu cette position suite à des événements très terribles qui ont touché son pays et il a dû fuir son pays. Et cet homme, il est arrivé ici en France et pendant des années, il a continué à vivre un peu dans le reflet de son passé. Sauf que il avait plus le statut du passé. Ici, il disait « Je suis prince ». Mais chez nous, prince, il y en a aussi au supermarché. C'est des petits biscuits. Et personne ne lui donnait ce qu'il attendait, ce qu'il espérait. Non ? Et quand il attendait que les gens se présentent vers lui et qu'ils aient les mêmes, je dirais, attitudes auxquelles il avait été habitué, il avait du mal à comprendre, il avait du mal à saisir que ce qu'il attendait n'arrivait pas. Il vivait dans une éducation du passé. Parfois, on peut avoir grandi avec une certaine culture, et croire que cette culture est devenue pour nous un dû. Il est le cas pour le peuple d'Israël, dont il est question dans le texte, ce peuple qui s'était détourné de Dieu, mais qui continue à vivre avec ce ressenti de dire « on est le peuple de Dieu ». et on fait ce qu'on veut. Sauf qu'ils avaient perdu le statut. Ils avaient malheureusement, à cause de leur attitude, à cause de leur péché, perdu cette royauté qui était sur eux. Dieu avait pris un petit peuple, le peuple le plus petit qu'il y avait sur la terre, je dirais le peuple peut-être même le plus méprisé, pour en faire son peuple. Il avait donné à ce peuple de la renommée, il avait donné à ce peuple une terre, il avait donné à ce peuple le fait d'être lui, le Dieu. Et il était connu comme le peuple de Dieu. Mais du moment que ce peuple s'était tiré en arrière de cette relation, avait renoncé à cette, je dirais, place que Dieu devait avoir dans leur vie, dans leur cœur, forcément Dieu les a mis de côté. Mais dans leur cœur, ils continuaient à vivre comme si. Et on le voit dans le livre d'Osée, le prophète est amené à rappeler au peuple et leur faire réaliser le fait qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Ce peuple marchait sans se rendre compte qu'ils avaient perdu la faveur de Dieu. Dans les versets que nous avons lus, au verset 2, Dieu appelle son peuple par son prophète, Israël, reviens à l'Éternel. Reviens auprès de ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Avoir notion et connaissance de ce qui véritablement s'est produit peut permettre finalement de prendre conscience de où on est tombé. Non ? Prendre conscience de la réalité. Mais parfois, vous savez, la réalité, on a du mal à l'entendre. On a du mal à la comprendre. Parce qu'on vit dans ce rêve du passé. Et je vous dis, pour cet homme, c'était très dur. Je me rappelle, on discutait ensemble et un jour, il me dit, tu sais, ça ne me dérangerait pas si tu m'appelles mon prince. J'ai dit, mais tu sais, moi, ça me dérangerait profondément parce que tu ne l'es pas. Moi, j'ai un roi, j'ai Jésus. Je n'ai pas besoin d'autres princes. J'ai dit, et je ne vais pas te... quelque part, ben oui, te bercer dans une conviction qui n'est plus. Tu as perdu, malheureusement, pour toi, tu as perdu ton statut, mais tu peux gagner plus. Tu peux voir mieux qu'avant. Tu peux voir plus que mieux qu'avant. Mais il n'est pas question pour toi de te réinstaller dans une position personnelle qui peut t'amener loin. D'ailleurs, regardez, Dieu rappelle à ce peuple de revenir vers lui avec des paroles de repentance, se repentir. Ça veut dire prendre conscience de nos fautes et avoir le courage de les énoncer. Reconnaître publiquement, entre nous et Dieu, le but c'est pas de confesser nos péchés à n'importe qui, c'est à Dieu. Mais de venir à Dieu en disant, Seigneur, voilà mes péchés, je les reconnais. Je considère, Seigneur, je me suis trompé. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Et dit, revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toute faute. Il est question du péché. Le mot péché veut dire manquer la cible. C'est tirer à côté. Je me rappelle au service militaire, les premières choses qu'ils nous ont amenés à faire, c'est à tirer avec des fusils. Et je me rappelle, il y en avait, ils regardaient d'un côté et ils tiraient de l'autre. C'était des dangers publics. Ils ont tiré une fois, après quoi on a arrêté de leur donner des armes. Ils étaient dangereux. Ils étaient dangereux pour eux, ils étaient dangereux pour les autres. Le péché est, est dangereux pour nous, mais est dangereux aussi pour les autres, parce qu'on peut entraîner d'autres dans notre chute. Il est question de rébellion. Le mot rébellion veut dire dissidence, insurrection, mutinerie, révolte, sédition, soulèvement. Aujourd'hui, la rébellion est à l'ordre du jour. Peu importe la couleur du gilet qu'on met. Peu importe les convictions qu'on peut avoir, religieuses, politiques, tout peut donner lieu à une rébellion. C'est une manifestation ouverte d'une prise de position face à l'autorité, contre l'autorité. Or, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas être d'accord. On est tout à fait. Mais attention à la manière que nous avons vis-à-vis de Dieu de manifester notre incompréhension, voire même notre mécontentement. On peut ne pas être content. Et on a le droit de dire au Seigneur, je ne comprends pas, je ne suis pas content. Mais après, il faut être prêt à écouter aussi la réponse. Et on verra forcément que Dieu n'est pas content non plus. Et il a tout le droit d'être pas content. Parce que dans sa position de roi, l'attitude qu'il voit de notre part est celle de la rébellion. Donc forcément, il ne peut pas nous dire « tu as raison, vas-y, continue », alors qu'il sait qu'on s'éloigne de lui, on s'enfonce. L'idolâtrie. Je me suis rendu compte que l'idolâtrie, il y a deux phases. La première, c'est de se servir des idoles pour adorer Dieu, et donc on s'y prend très mal. La deuxième phase, c'est se détourner totalement de Dieu au profit des idoles. Qu'est-ce qu'est une idole ? Une statue ? Quoi encore ? Tout. Tout. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu, c'est une idole. Ça peut avoir la forme d'une statue. Ça peut avoir la forme d'une voiture. Ça peut avoir la forme d'une personne. Ça peut avoir même la forme, je dirais, d'un parti politique. Ça peut avoir n'importe quelle forme. Du moment où elle prend la place de Dieu, c'est une idole. Et si on considère bien combien de choses peuvent s'immiscer facilement. Moi, je suis étonné, depuis un certain nombre d'années, on voit la multiplication des idoles en vente libre sur les supermarchés. En veux-tu, en voilà, des petits, des moyens, des grands. Un jour, quelqu'un m'appelle et me demande d'aller rendre visite chez lui parce qu'il a des problèmes chez lui. Il ne dort pas bien, il y a des choses qui se passent, il n'est pas tranquille, il n'est pas apaisé. Et quand je suis arrivé chez lui, il y avait tous les idoles possibles et imaginables. Et je lui dis, chez toi, c'est une auberge. C'est une auberge. Tu passes de un minimum, tu as 4 religions représentées là. Ça, c'est pour ne pas prendre de risques. Il dit, mais c'est tellement joli. Je dis, oui, mais tu dors tellement mal. T'es pas en paix chez toi. Je dis, tu veux la paix ? Je dis, ben, il faut faire nettoyage dans ta vie. Et finalement, cet homme a pris le courage. Et il a nettoyé. Nettoyé. Je me rappelle dans cet entretien avec cette personne et aussi avec d'autres, combien de fois Dieu est intervenu, mais Dieu attend qu'on fasse du ménage dans notre vie. Je me rappelle de la rencontre avec un homme, un avocat. Il vient me voir et m'explique que voilà, il est avocat. Alors, il avait maîtrise donc comme avocat en droit. Il était aussi s'occupé de faire les actes pour les ventes et les achats des maisons, notaire. Et il ne trouvait pas de boulot. Il avait plus de diplômes que je ne sais pas qui. Je vous assure, moi j'étais... Il dit, je ne comprends pas. Et on commence à discuter. Je lui dis, tu sais, chez toi, la première fois que je suis venu, j'ai été étonné. Au centre de ta maison, il y a un petit espace, un petit jardin, et là, tu as mis un idole. Je lui dis, c'est lui qui règne sur ta vie. C'est lui qui règne dans ton foyer. C'est lui qui règne sur tes finances. Et toi, tu veux que Dieu intervienne, mais tu dis, écoute, tu passes après. Et Dieu ne prendra jamais la deuxième place. Dieu est un Dieu jaloux, dit la parole de Dieu. Il souhaite que tu lui appartiennes pleinement. Il dit, si c'est ça, je rentre à la maison, je fais du nettoyage. Il est rentré à la maison, il a décapité le truc. Il l'a réduit en petits morceaux. 3 jours après, il a trouvé du travail. Il m'a dit, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait devenir un blocage. Combien de fois il y a des choses qui deviennent pour nous un blocage et on les installe nous-mêmes. On donne un pouvoir, une autorité, nous-mêmes, à quelque chose pour devenir un blocage. Et le peuple avait fait cela. Ils étaient remplis d'idoles. Et ils avaient mis des blocages dans leur relation avec Dieu. Et ils attendaient quand même de vivre ce qu'ils vivaient avant avec Dieu. Ils étaient même convaincus qu'ils faisaient ça pour Dieu. Mais Dieu ne peut pas être d'accord. Dieu veut la première place. Tu adoreras Dieu et lui seul. C'est clair, c'est net, c'est précis. Un autre problème de ce peuple, c'était l'orgueil. Heureusement, nous, on n'est pas touchés par ça. L'orgueil, c'est l'autosuffisance. Et je dirais même souvent le mépris des autres. L'orgueil de l'homme qui se sent autonome, qui pense pouvoir se passer de Dieu même et s'attribue l'honneur à lui-même plutôt qu'à son Créateur. L'orgueil mène aussi à tomber de très haut. Je vous rappelle que c'est à cause de l'orgueil qui a précipité Lucifer dans sa position originelle, n'est-ce pas ? Qui a séduit aussi Adam et Ève avec la perspective d'être comme Dieu. L'orgueil. L'orgueil sera encore la motivation de l'Antichrist, dit la parole de Dieu. L'orgueil séduit le cœur, endurcit l'esprit, excite les querelles, précède la chute et la ruine. Pourquoi Dieu nous avertit de tout cela ? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne veut pas que ces choses-là arrivent à nous séparer complètement de Dieu. Or, il y a déjà une séparation à cause du péché. Puisque Dieu ne peut pas partager notre vie si notre vie est dans le péché. Mais Dieu invite à revenir, rechercher ses racines, rechercher son Père. Combien est incroyable pour quelqu'un qui recherche ses racines, finalement, de découvrir qu'il en a encore. Vous vous rappelez, je vous parlais tout à l'heure de cet homme qui se disait qu'il était prince. Et lors de cet entretien, il me disait, tu sais, moi j'ai perdu toute ma famille. Quand j'ai dû fuir mon pays, ma maison, ma famille a été tuée derrière moi. Et il dit, je suis resté seul au monde. Et je me rappelle ce soir-là, je prêchais sur un texte qui amenait justement dans cette réflexion que ce que nous pensons mort, Christ est capable de le ressusciter. Christ est capable de ressusciter même les morts. C'est une réalité. Dieu est capable de ressusciter même les morts, mais Dieu est capable d'intervenir dans les situations que nous pensons mortes complètement. Et cet homme était triste et dit « Je n'ai plus personne au monde ». Et deux jours après, il me téléphone et me dit « Tu sais, le message que tu as prêché m'a fait beaucoup de bien. » Et en même temps, il dit, quelqu'un m'a appelé, c'était un oncle. Et cet oncle lui a appris qu'il y avait d'autres cousins qui s'étaient sauvés et à fur et à mesure, il retrouvait de la famille. Et pour lui, ça a été un encouragement énorme. Je le comprends. Et combien c'est besoin pour nous de retrouver les membres de notre famille, n'est-ce pas ? Mais d'autant plus un père. Jésus dit dans sa parole qu'il est venu nous présenter le Père, nous faire connaître le Père. Connaissons-nous notre Dieu, notre Père ? Comment connaissons-nous Dieu ? Certains le connaissent comme quelqu'un de lointain, de trop occupé. Mais Dieu veut se présenter à nous et il nous dit, en effet, dans sa parole, à partir du verset 4, « Car auprès de toi, l'orphelin trouve de la compassion. » Qui peut véritablement avoir de la compassion pour un orphelin si ce n'est pas quelqu'un qui a un cœur de père ? N'est-ce pas ? Quelqu'un qui n'a pas un cœur de père à quelque part, il peut-être être touché un moment, mais après, vite, il est reparti dans sa vie de tous les jours. Mais la réponse de Dieu, c'est « Je guérirai leur inconstance ». Waouh ! C'est quoi l'inconstance ? Le contraire de la sommes-nous constants ? Allez, on va parler d'un truc qui fait plaisir à tout le monde, le régime. Combien de fois on peut décider de faire un régime ? À partir de demain, pas aujourd'hui, demain. À partir de demain, je serai sérieux. Voilà. Demain matin. Pas maintenant. Maintenant, demain. Et quand on est arrivé demain, on dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Ou peut-être on fait le sacrifice un jour, deux jours, trois jours, et après on passe devant la boulangerie. Et là, c'est dur. Moi, je me rappelle d'un moment où j'avais décidé de faire un régime et je passais tous les jours devant la boulangerie. C'était douloureux, compliqué. Et des jours, je résistais, je fermais le nez, j'avançais. Mais il y a des jours, je me disais, pourquoi se faire du mal si on peut se faire du bien ? Non ? Mais c'est une forme d'inconstance. Mais il y a d'autres secteurs de notre vie aussi, dans notre relation avec Dieu, où on peut être inconstant. Peut-être à un moment bien précis, on est touché dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes. On a cette conviction, on repart de la réunion en disant, mais oui, j'ai compris, j'ai décidé. Et demain, je suis reparti en arrière. Ou peut-être dans deux mois, peut-être dans trois mois, je ne sais pas. Cette inconstance a besoin de guérison. Et quand Dieu dit, je guérirai leur inconstance, c'est parce qu'il est prêt à faire quelque chose pour nous aider. Et moi, je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi dans les secteurs dans lesquels je suis inconstant. Viens à mon secours. On ne peut pas être fort sur tout. Non ? On doit être aussi capable d'accepter qu'on a des points faibles, des fragilités. Et Dieu est capable aussi de nous guérir dans tout cela. J'aurai pour eux un amour généreux. Ah ! Cet amour généreux. Cet amour qui donne au-delà, car ma colère s'est détournée d'eux. Waouh ! Je me rappelle que toutes les fois que je faisais une bêtise et que je revenais à la maison, la chose qui me faisait le plus peur, c'était même pas mon père, c'était ma mère. Papa, lui, il était tellement occupé, il passait le flambeau à maman. Et ce regard de savoir ma mère en colère parce qu'elle savait que j'avais fait quelque chose de mal me rendait profondément triste et en même temps craintif. Elle avait le moyen. Mais il est question de revenir en sachant que la colère s'est détournée. Je me rappelle d'un jour où mon frère s'est perdu. Il était tout petit. Il voulait me suivre. On était en train de faire un barbecue avec des frères et sœurs de l'église. On était partis dans un coin de campagne. Et on était partis aller prendre de l'eau avec d'autres enfants. Et lui, il était plus petit. Il a voulu nous suivre. Au lieu de tourner à droite, il a tourné à gauche. Il a monté toute la montagne et un chien, il l'a suivi. Et il est arrivé près d'un précipice et là, il était trop fatigué, il n'avait que 3 ans et demi et il s'est endormi au bord du précipice. Et le chien est retourné en arrière. Et tout le monde cherchait mon frère. Et je me rappelle, mes parents, ils étaient énervés. Énervés avec moi parce que bah, t'as perdu ton frère. Bah, c'était vous qui deviez l'avoir, c'est vous les parents, c'est pas moi. Moi, je suis allé prendre l'eau, hein, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Énervé avec lui parce qu'il est parti alors qu'on lui a dit de rester. Et finalement, ben, le chien a réussi à se faire comprendre. On a suivi ce chien, on a retrouvé mon frère endormi près du précipice. Et ce jour-là, ben, vous savez, la colère est partie du moment qu'ils l'ont revu. Ils l'ont pris dans les bras, il n'y avait plus de colère. C'était fini. Et je vois dans cette image de Dieu qui, forcément, il est en colère parce qu'il nous aime tellement, il nous a prévenus, il nous a donné tous les moyens et nous, on ne l'a pas écouté. Mais du moment qu'il nous voit revenir à lui, il oublie sa colère. Et son amour nous prend. On est cajolé. On est guéri. On est relevé. Il est question pour nous de retrouver nos racines en Christ, connaître et vivre le chemin qu'il a préparé pour nous. Dieu ne peut pas être comparé aux idoles. Il dira, Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Dieu ne veut pas qu'on ait quoi que ce soit qui nous empêche en réalité de nous approcher de Dieu lui-même. Il promet de nous exaucer, de nous suivre des yeux. Et il est capable encore de nous rendre verdoyants et de nous aider à porter du fruit. Au verset 10, il donne une invitation qui dit que celui qui est sage ait l'intelligence de ces choses. La véritable sagesse, elle est liée au fait d'avoir une sainte crainte de Dieu. La sagesse, ce n'est pas d'en connaître plus que les autres. C'est de savoir exactement qui est Dieu et comment le servir. Que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Et vous voyez, il donne deux possibilités. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Quelle voie on prend ? J'aimerais terminer avec un texte qui se trouve dans le livre de Job, au chapitre 22, à partir du verset 21 qui dit ceci. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Reçois de sa bouche instruction et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu éloigneras l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. Et pour toi, des monceaux d'argent. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras ton Dieu vers Dieu ta face. Tu l'imploreras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. La volonté de Dieu, c'est déjà d'avoir un plein accord avec Dieu. Et après le reste, Dieu fera ce qu'il doit faire dans notre vie du moment qu'on lui donne la place qui lui revient. Fais de Dieu tes délices. Ne t'appuie pas ni sur l'or ni sur l'argent, tout ça, ça n'a pas de valeur réellement. Appuie-toi sur l'Éternel et après tu verras aussi la manière où Dieu exaucera ta prière. Mais fais de l'Éternel ta délice. Qu'est-ce que ça veut dire, fais de l'Éternel ta délice ? Tes délices, pardon. Je vous écoute. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que vous aimez bien le matin au petit-déj? Allez, c'est votre anniversaire demain matin. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Des petits pains au chocolat. Hein? Ok. Et à midi? Une langouste, ok, tant qu'à faire. Mais en deux, on ne sait jamais si on a un petit creux à 4 heures. Quoi encore? Demain soir, quoi? Des crêpes. Bon, il y en a qui veulent se tenir léger le soir. Fais de l'Éternel tes délices. En effet, c'est va chercher le meilleur chez celui dont tu sais qu'il peut te le donner. Et avant de t'engager à droite, à gauche, Seigneur, toi qui es ma délice, Seigneur, toi qui es mon roi, toi qui es mon Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Parce que si tu es d'accord, je peux y aller. Tu n'es pas d'accord, Seigneur? Mais j'y vais pas. Parce qu'au lieu d'avoir tes délices, je vais avoir des problèmes. Au lieu d'avoir des petits pains au chocolat, du pain dur. Et pas de possibilité de le griller non plus. C'est du pain dur. Je ne sais pas si vous avez les mêmes à la maison. Moi, j'ai des enfants, ils aiment le pain frais. Le pain dur, c'est pour papa. Ça soigne, ça maintient ses dons. Et pas le début du pain, parce que là, il est dur. C'est mieux après. Donc, il y a des aliments qui sont mis de côté. Les yaourts, c'est toujours les mêmes, ceux qu'ils n'aiment pas. Et c'est là qu'on se dit, Seigneur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Non ? Dieu ne veut pas que, excusez-moi, qu'on mange du pain dur. Et si même il y en a à la maison, Dieu soit béni pour le pain dur. Comprenez bien. C'est surtout que Dieu voudrait nous éviter de vivre des situations et des circonstances qui vont nous faire souffrir, parce que quand nous souffrons, le cœur de Dieu souffre. N'oubliez pas, c'est notre Père. Et cette souffrance, on aurait pu se l'éviter. Alors il dit au verset 28, « Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Mais je vous rappelle aussi qu'il nous a été aussi rappelé ce qui est véritablement la sagesse. Qu'est-ce qu'est vraiment la sagesse ? Et c'est de s'approcher et de marcher dans les voies que l'Éternel a placées pour nous. Peut-être que la manière de partager l'Évangile, moi je le fais toujours avec joie parce que je me dis que l'Évangile c'est une bonne nouvelle. Mais n'oublions pas que le fond c'est sérieux, très sérieux. Très sérieux, parce que c'est notre vie éternelle. C'est notre vie éternelle. C'est notre avenir. Mais c'est aussi notre présent. C'est aujourd'hui, maintenant, quelle est la décision qu'on prend ? Je voudrais vous inviter à fermer vos yeux et vous dire et me dire aussi à moi-même, le Seigneur est encore là ce soir pour nous donner cette sagesse dont nous avons besoin. Le Seigneur est là encore ce soir pour nous guérir de notre inconstance. Et Dieu est capable encore ce soir de nous combler d'un amour généreux. Il veut détourner toute forme de colère de nous. Il veut être cette rosée qui vient du ciel et qui vient transformer notre vie, qui peut-être connaît un moment de sécheresse, pour retrouver, refleurir, redonner encore une fois de la force aux racines. Mais ça ne peut pas se produire tant qu'on n'a pas fait cet acte, pris cette décision de revenir à Dieu, de nous approcher de lui, en ayant conscience que chacun d'entre nous, nous avons encore des sujets, des secteurs de notre vie dont nous avons besoin du secours de Dieu. On a besoin aussi de les abandonner entre les mains de Dieu. Il y a certainement pour chacun d'entre nous encore un facteur dans notre vie qui a besoin du secours de Dieu. Pour certains, peut-être c'est le caractère, pour d'autres, c'est la peur du lendemain. Pour d'autres, c'est la manière d'avancer dans la vie. Pour d'autres, c'est les sentiments. Pour d'autres, c'est, je ne sais pas. Mais en toutes ces choses, on peut demander le secours de Dieu. Dans toutes ces choses, on peut demander à Dieu qui nous arrose de sa grâce. Si quelqu'un voulait dans son cœur prier, je voudrais l'inviter à faire avec moi en ce moment même et dire « Seigneur, Dieu miséricordieux, je m'approche de toi, reconnaissant que je suis un pécheur, reconnaissant que je suis fautif, inconstant. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Ce que tu désires, c'est un cœur repentant. Ce que tu désires, c'est un cœur qui se donne pleinement. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à m'approcher de toi. Seigneur, je suis tellement petit que si toi, tu ne venais pas vers moi, je ne pourrais jamais arriver à point. Seigneur, merci de faire un pas vers moi. Merci, Seigneur, d'étendre ta main vers moi. Merci, Seigneur, encore de ta grâce et de ta miséricorde et de ton pardon ce soir. Seigneur, tu es celui qui tend sa main sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous te remettons nos faiblesses, nos fragilités, nos défauts. Nous te remettons, Seigneur, encore tous les secteurs de notre vie dans lesquels nous voulons te dire, Seigneur, viens régner. Viens changer les choses dans ma vie, Seigneur. Seigneur, s'il y a encore des points de sécheresse dans ma vie, peut-être dans mes sentiments, dans ma manière d'être, dans ma manière de faire, viens arroser ma vie de ton amour. Change ma vie, Seigneur. Transforme-moi. Seigneur, tout cela n'est possible que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est par lui, Seigneur, que cette grâce nous est accordée ce soir et nous voulons la saisir pleinement. Seigneur, nous voulons marcher sur ce chemin qui est droit. Seigneur, garde-nous de nous perdre, garde-nous, Seigneur, de nous détourner de la vérité. Seigneur, garde-nous de nous éloigner de toi, car toi, tu es notre Dieu et tu es notre Père. Et nous te disons encore à toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen.